Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors, avec
les Faramineux à quoi?
Ça commence fort avec Jean-Sébastien Laliberté qui, non content d'être aux manettes, va être aussi mon chroniqueur du jour pour sa chronique. Je ne sais pas si on l'appelle encore moment Schadenfreude, mais c'est juste pour le plaisir de le prononcer.
Mais oui. On va tout inclure ça. Là-dedans, ça va devenir un mot porte-manteau qu'on dit.
Exactement. Et puis, en deuxième partie d'émission, eh bien, on recevra Laurence Oligny-Roy, qui est designer, fondatrice et copropriétaire de l'entreprise Nada et Co. Atelier sur l'île d'Entrée. Et d'après ce que j'ai lu sur elle, elle a plein, mais plein de choses à nous raconter. Donc, ça va être un bon moment, comme celui que nous allons passer d'ailleurs avec toi, Jean-Sébastien, dans un instant.
La barre est haute.
Après avoir entendu Jerry Boulet qui nous chante « Toujours vivant ». Ah, elle est belle cette chanson et c'est vrai, moi aussi je veux frapper dans la vie à grands coups d'amour. Voilà, donc Jean-Sébastien Laliberté, c'est à toi. Comment on fait roulement de tambour avant que...
Oh, je ne suis même pas sûr que j'ose. Non, je vais plonger dans le vif du sujet. Pas de roulement de tambour, pas d'applaudissements, pas d'acclamations. Mais Arlette, est-ce que tu as déjà remarqué que depuis quelque temps, il y a une mode, une résurgence avec cette fascination avec les zombies? Que ce soit au cinéma, à la télévision, un peu partout.
À la télé, oui, j'ai vu ça.
Et les zombies, souvent, on se les imagine comme étant des créatures d'horreur, des morts vivants en décomposition qui ne veulent que manger des cerveaux. Et j'ai choisi cette pièce de Jerry Boulet pour vous parler d'un cas, pas tout à fait de zombie, mais d'un mort vivant qui a reçu le prix Ig Nobel en 2003. Il se nomme Lal Bihari et il habite à Uttar Pradesh, en Inde. Et ce monsieur a reçu le prix Ig Nobel de la paix pour une triple réalisation. Celle d'avoir mené une vie active alors qu'il avait été reconnu officiellement décédé en 1976.
Erreur sur son papier? Tu nous expliqueras après, vas-y.
Avoir mené une campagne posthume acharnée contre l'inertie bureaucratique et pour avoir créé l'association des personnes décédées. Alors, ce monsieur, né en 1961, est un paysan d'Inde qui est déclaré officiellement mort en 1976 jusqu'en 1994. Donc, je vous annonce qu'il est de retour au pays des vivants et qu'il est encore vivant aujourd'hui. Il s'est battu contre le gouvernement indien pendant 18 ans pour prouver qu'il était vivant.
Mais ça, c'est un truc de fou, ça, c'est...
On pourrait penser que le simple fait d'être vivant, d'exister, serait une condition quand même facile à démontrer. Eh bien non, 18 ans. L'origine du problème de tout ça, comment s'est-il retrouvé décédé?
Oui, c'est ça.
Alors, tout ça vient apparemment de son oncle qui souhaitait profiter de la terre de Lal Bihari. Et donc, il fait une déclaration de décès pour hériter de la dite terre. Mais M. Bihari apprend, par hasard, la même année, en voulant faire une demande de crédit auprès d'une banque, qu'il n'était plus officiellement vivant. Alors débute une lutte pour récupérer son identité. Il essaye en vain pendant de nombreuses années de faire annuler son décès. Il multiplie les recours et il apprend qu'au minimum une centaine de personnes seraient dans la même situation que lui.
Oh mon Dieu.
Il fonde donc l'Association des morts de Uttar Pradesh. Il se met donc à signer aussi, lorsqu'il signe les papiers, il signe le regretté Lal Bihari. Et il décide de médiatiser son affaire. Il organise ses propres obsèques. Il réclame une pension pour sa veuve parce que, bon, tant qu'à être mort, on va profiter des avantages.
Et puis pas payer d'impôts, puis pas passer à côté de tout ça aussi.
Il se présente même à des élections locales qu'il perd pour mettre en confrontation l'administration électorale qui valide sa candidature contre le fait qu'il soit vivant avec l'administration qui a enregistré son décès. Et il retrouve, comme je l'ai dit, son identité en 1994, soit 18 ans plus tard. Mais vraiment, chapeau pour la patience.
Pour sa pugnacité, parce que vraiment, il a fallu en arracher pour faire ça pendant 18 ans. En même temps, quand t'es plus là, t'as plus droit à rien, mais tu n'as plus rien à payer non plus.
En théorie.
Bah, même en pratique, t'es pas là, donc... excusez-nous,
mais...
Pas d'impôts à payer. Pas de loyer, je suis mort.
La bureaucratie, hein. On pourrait en parler des heures et des heures.
Mais mon Dieu, quelle angoisse. Et puis en plus de ça, c'est même pas les années passées. Ne rions même pas sur le passé parce que ça existe certainement aujourd'hui aussi.
Oui, l'association aide encore plusieurs personnes à tenter de revenir du monde des vivants et d'arrêter d'être des morts vivants. Donc,
c'est un truc de fou.
Vraiment. Donc, toujours, je prends la peine, avant d'aller plus loin, de rappeler aux auditeurs qui n'étaient pas là ou qui ont peut-être une mémoire sélective ce que sont les prix Ig Nobel, les Ig Nobel Prize. Ce sont des recherches scientifiques, une remise de prix qui a lieu annuellement, qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir. Alors, la personne que je viens de parler, c'était pour le prix de la paix, pour sa persévérance. Allons voir en ornithologie. Deux chercheurs de Californie pour leurs travaux expliquant pourquoi les pic-bois ne sont pas sujets aux maux de tête. Une étude pour savoir comment ce petit oiseau qui donne des coups à répétition sur le bois avec son bec, comment fait-il pour ne pas avoir la migraine constamment.
Ça peut aider à soigner la nôtre de migraine quand on l'a.
Ben, peut-être. Et un des deux est allé chercher son prix, affublé d'un bec d'oiseau et coiffé de plumes rouges. Donc, il y en a qui vont quand même accepter leur prix. Et ils ne se cachent pas. Donc, le professeur Schwab a reçu son prix d'ornithologie. Comment le pic peut-il résister au nombre et à la force des coups qu'il porte à longueur de journée sur les arbres pour déloger les insectes en faisant la cour lointaine à une femelle ou pour creuser son nid dans un tronc? Durant une journée ordinaire, le pic noir, par exemple, aura donné entre 8000 et 12000 coups de bec.
Oh là là, dis donc! Impressionnant, la nature.
C'est largement de quoi abîmer le cerveau et même décoller la rétine. Donc, on prend la peine de préciser aux gens, n'essayez pas de vous péter la tête 12000 fois par jour contre le mur. On n'est pas des pics-bois, ça risque de faire mal. Donc, on a compris que l'animal résiste à ce traitement grâce à un cerveau petit, pour une fois que ça peut servir, et des yeux bien enfoncés dans le crâne épais avec une structure spongieuse. Donc, ils ont quand même vraiment étudié. Et je tiens à rappeler aux gens que si vous n'avez pas un petit cerveau et des yeux bien enfoncés, de ne pas tenter de vous défoncer le crâne.
Oui, mais pour ceux qui sont comme ça, il y a de l'espoir.
Tiens, allons toujours une autre année. En 2006, un autre récipiendaire pour le prix de la paix. Nous sommes au Royaume-Uni, alors que Howard Stapleton invente un appareil. En fait, l'appareil a été inventé avant 2006, mais le prix a été remis en 2006. Il invente un appareil émettant un son insupportable, audible uniquement par les jeunes de moins de 25 ans.
Pourquoi?
Bien, c'est à la base un appareil qui peut permettre de chasser les moustiques avec les... D'abord, pourquoi? Parlons de l'audition. On sait déjà qu'il y a des sifflets pour chiens, tu sais, qui envoient des sons très, très, très aigus pour lesquels les chiens se rentrent les yeux dans le sol ou en tout cas, bref, c'est irritant. Et que nous, les humains...
On n'entend pas.
On n'entend pas. Nos oreilles ne sont pas faites pour décoder ça. Donc, il y a des appareils électroniques qui sont des chasses moustiques qui envoient des sons très aigus qui permettent d'éloigner les moustiques. Et plus on est jeune, plus notre audition est bonne. Et donc, plus on vieillit généralement et plus notre audition dépérit avec le temps. On entend de moins en moins bien certaines fréquences. On entend moins fort aussi certains sons. Et donc, l'appareil envoie un son de 17 000 Hz, donc 17 kHz. Ce qui est très élevé. Notre oreille peut entendre entre 20 Hz, qui est un son très, 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 très grave, qui ressemble à un tremblement, et ça peut aller jusqu'à 20 000 Hz, qui là est un son très, très, très aigu. Et généralement, avant de se rendre à 20 000, la plupart des humains, on n'entend plus ça.
Qu'est-ce que tu dis, Jean-Sébastien? Tu peux recommencer depuis le début?
Je vais donner un petit exemple. Alors, on va commencer avec le son de 440 Hz, qui est plus ou moins la tonalité du téléphone, du temps qu'on avait une tonalité de téléphone. Oui. Les cellulaires, on n'entend plus vraiment ça. Alors, voici donc 440 Hz.
Ça,
on entend quand même bien. On va aller maintenant à 4000 Hz. Qui est...
Je dois enlever mon casque?
Non, mais je vais le laisser uniquement pendant une seconde. C'est probablement le son qu'on entend le plus facilement, qu'on entend le plus fort, qui est l'équivalent du cri d'un bébé.
D'accord.
Mais qui est aussi l'équivalent d'un système d'alarme. Donc, attention aux oreilles.
Ah oui, c'est...
Donc ça, on entend très bien encore là, puis c'est agressant. On va aller jusqu'à 12 000. On va entendre encore un peu, c'est plus aigu, c'est un petit peu moins fort, mais c'est quand même agressant. Est-ce que tu as entendu Arlette?
Non.
Non? OK, je vais mettre un petit peu plus fort.
Oui, j'entends.
Bon, alors, un petit cillement. Et je vais aller jusqu'en ensuite l'exemple en question, le 17 000. Attention. Donc, moi, je l'entends très faiblement. Mes écouteurs sont très élevés. C'est possible
moi,
que...
Moi, j'entends un petit quelque chose, mais vraiment infime.
Donc, ça, c'est ça. Plus on va dans le très aigu et moins on entend.
D'accord.
Donc, maintenant qu'on a fait la démonstration, c'est normal à la maison, si vous n'avez pas tout entendu, donc c'est soit parce que votre appareil n'était pas assez fort, soit parce que vos oreilles sont peut-être fatiguées. Alors, donc, il y a eu cette mode début des années 2000 où on installait ces appareils à électrosons pour ne pas que les adolescents viennent flâner là. Ça envoyait des sons très aigus, comme on vient d'entendre.
Ah, d'accord.
Mais qui n'importunaient pas les personnes de 30 ans et plus, de 40 ans, 50 ans et plus, uniquement
d'accord.
Les adolescents, parce que leur audition est généralement assez bonne.
Pourquoi on voulait les chasser? Pour pas qu'ils...
Le flânage.
Pas de flânage, comme ils disent dans les métros.
Parce qu'on sait tous que tous les méfaits dans la vie sont évidemment uniquement faites par des adolescents.
Oh bah bien sûr, c'est tellement facile, bien sûr, c'est sûr.
Et j'ai souvenir moi-même...
C'est sûr qu'on devient intelligent quand on vieillit.
J'ai souvenir d'avoir dû attendre une fois sous la pluie, en dessous d'un petit Porsche, sur lequel il y avait ça, et j'avais envie de m'arracher les oreilles.
D'accord.
C'était très, très, très inconfortable.
C'est quand même fou, puis je trouve ça mesquin.
Oui.
Aussi, totalement mesquin. Enfin, bref.
Donc,
j'en aurais long à dire, donc je veux pas couper ta...
Ben, écoute,
on part en musique,
coupons,
peut-être?
Coupons donc ça, oui, question de mieux réfléchir et d'aller nettoyer ses oreilles.
On écoute Los Pedros Chimios qui nous chante Rico le Chihuahua. Et au retour, tu nous diras qui est dans ce groupe.
Sorti de la tête, un petit air de Jean-Luc Mongrain reste une bête. Il jappe sans arrêt et mord toutes les chevilles. Il transforme une chemise en tas de guenilles. C'est pas long et quand il te fixe, son regard te fusille. Où est passé Rico le Chihuahua? En cavale dans le fossé, il n'est plus là. Où est passé Rico le Chihuahua? On s'en met des yeux fous, mon petit bitou. Rico a déserté depuis 3 jours. Parti juste pour aller faire un petit tour. Quelqu'un jure qu'il l'a vu dans un trou d'écureuil. C'est devenu sa nouvelle famille d'accueil. Il mange des noix, crouse les femelles, fait des clins d'œil. Où est passé Rico le Chihuahua? Chihuahua, en cavale dans le fossé, il n'est plus là. Où est passé Rico le Chihuahua? On s'en est des yeux fous, mon petit bitou. Où est passé Rico le Chihuahua? Les bananes, il met des petites vaches.
Los Pedros Chimicos, un projet de Polo, jadis des frères à cheval, Martin Valois et Dominique Dagenais.
Voilà.
Tiens, est-ce que
déjà,
votre...
Déjà, une première chanson qui nous fait rire. Est-ce que tu as un rapport avec les animaux?
Absolument.
Ben,
oui et non.
Ah bon, alors d'accord.
Les animaux, mais pas les chihuahuas. Est-ce que votre cycle circadien est déréglé? Est-ce que vous vous couchez très tard ou très tôt? Vous avez envie de vous remettre sur le piton? Est-ce que vous êtes un peu décalé, horairement parlant? En aviation, des chercheurs de l'Université nationale de Quilmes en Argentine ont découvert que les hamsters, pour se remettre d'un décalage horaire, pouvaient être aidés grâce à du Viagra.
Ah, il y en a peut-être un paquet qui vont se dire « Oh, finalement, je dors mal la nuit.
» Donc, il y a des effets secondaires qui sont peut-être meilleurs que d'autres. tiens, restons du dans le bon, tiens, on parlait des chiens à l'université, à l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Pardon, on a découvert que les puces qui vivent sur un chien peuvent sauter plus haut que les puces qui vivent sur un chat.
Ça, c'est par rapport à la taille de l'animal, mais c'est la même distance.
Ben non, je pense que c'est un pourcentage. C'est au prorata rendu là. En médecine, à l'université de Duke, un chercheur a démontré qu'un placebo qui coûte très cher est plus efficace qu'un placebo qui ne coûte pas grand-chose. Donc, on a vraiment un effet placebo double rendu là.
Mais qu'est-ce qu'on va pas inventer pour gagner de l'argent? Putain, mais oui.
C'est vrai, c'est une bonne justification. C'est pour augmenter le prix des médicaments. On a juste à dire que plus ça coûte cher, plus ça fait
voilà,
effet.
Voilà, oui. Mais bien plus, il y a des gens qui croiraient. Il y a certainement des gens qui croient. Donc, c'est sûr que ça peut leur apporter de l'argent. Ça ne sera pas mon cas. Alors,
on poursuit. Allez. En sciences physiques, un observatoire océanique et un universitaire de Californie ont prouvé mathématiquement que les tas de cheveux, de cordes ou autres substances semblables finissent inévitablement par s'en mêler en eux. Donc,
Faire des nœuds,
ça veut dire si vous avez une paire d'écouteurs, que vous la placez soigneusement dans un tiroir et que vous ouvrez votre tiroir 4-5 fois, il y a des fortes chances que quand vous sortiez le casque d'écoute, il y ait un nœud à l'intérieur. Même chose avec des lacets, avec des cheveux. Je ne sais pas pourquoi vous conserveriez des cheveux dans un tiroir.
Ben, souvenir d'une mèche coupée
Peut-être,
aux enfants, des fois.
Mais c'est bon de voir que je me suis toujours fait cette réflexion-là quand j'étais petit. Peu importe si on le pitch en tas, ou si on l'entoure soigneusement, quand on va le ressortir, c'est immanquable, il va y avoir des nœuds à l'intérieur. Je pensais que j'étais fou, mais les chercheurs ont prouvé que mathématiquement, ça s'explique.
Ah, mais c'est bon! Il t'a fallu combien d'années à toi pour t'en rendre compte?
J'étais au primaire. Parlons de médecine vétérinaire. On a démontré que les vaches portant un prénom produisent plus de lait que celles qui n'en ont pas.
Ah ben oui, c'est comme partout. Comment on peut arriver à tuer les gens? C'est en leur enlevant leur identité. Donc si tu donnes une identité à un animal, elle va être heureuse, donc elle est heureuse, elle donne plus de lait.
Et ça m'a fait repenser à quelques années, logique. J'avais vu justement qu'ils ont fait des tests auprès des vaches laitières toujours, et les vaches qui portaient un casque de réalité virtuelle sur lesquels on projetait des images de champs, même si c'était dans une ferme à l'intérieur. Donc, si les vaches avaient l'impression, grâce à un casque de réalité virtuelle, elles produisaient plus de lait, elles étaient plus heureuses que les vaches qui ne portaient pas de casque de réalité virtuelle.
Ah, mais moi, j'y crois. T'y crois pas, toi?
Ben oui, ça a été prouvé. Mais je n'ai rarement fait l'essai d'un casque de réalité virtuelle, mais je suis subjugué de voir à quel point même les vaches, ça a un effet sur eux, un effet bénéfique.
Ben oui.
Et
comme
tiens,
quoi?
On va terminer avec une petite dernière pour aujourd'hui. Qui ne risque rien n'a rien. Hein? En médecine, deux chercheurs ont utilisé les montagnes russes pour essayer de faire passer plus rapidement les calculs rénaux. Donc, vous avez des pierres aux reins. Peut-être qu'aller sur des montagnes russes, ça peut vous aider. Et la conclusion de ça est que les gens qui sont assis à l'arrière ont plus de chances de faire passer leurs calculs rénaux que ceux qui sont assis à l'avant. Et les deux chercheurs ont eu l'idée, suite à plusieurs cas qui ont été rapportés de pierres aux reins qui ont été passées soit suite à un épisode sur une montagne russe ou en faisant du bungee. J'imagine être la personne qui fait du bungee et que pendant qu'on est au bout de sa corde, les calculs rénaux décident de passer. Bref... qui ne risque rien à rien. Je suis sans mots.
Moi également. Je peux rien dire de plus parce que là, j'ai seulement envie d'en rire. Mais quoi que, regarde, les montagnes russes, tu te payes un manège et ça t'économise le médecin.
Bon, j'arrête là. Allons en musique.
Alors en musique, alors là, il faut quand même l'annoncer. C'est Marcel et son orchestre qui nous chantent « Nous n'avons plus les moyens
». À rire franc, à rire frais, à rire français.
Ya, 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 ya mode ce con, le royaume consommé. Qu'est-ce qu'on attend pour expulser les assistés, les parasites, tous ces minables, ces maillons faibles qui ralentissent le marché. Chez notre bonheur, qu'est-ce qu'on attend pour tourner le dos aux loyers, aux acquis sociaux? Si les salariés coûtent trop cher, y a qu'à les priver de salaire.
Chanson parfaite pour ceux qui n'acceptent pas la différence. Voilà. Donc on se retrouve dans un instant avec Laurence Ligny-Roy. Restez avec nous.
Aramineux, avec votre animatrice Arlette Farah.
C'est ta grosse voix qui arrive du patio. Est-ce que toi ici, t'es au Nos à Marco? Les yeux au ciel, je marmonne, on est dans le trouble Houston. Mon satellite reçoit plus les signaux. Disant déjà que ton orbite est cousue. Autour de moi, personne qui m'a prévenu. D'abord t'as brillé, ensuite t'as filé. Je me suis dit, regarde la belle comète de marde. Et ton grand rire détonne, c'est le décollage. Tout droit dans ma tête. En millions d'étoiles.
Alors on vient d'entendre Belle Grand-Fille qui nous chantait Ton Grand Rire, et maintenant chose promise, chose due, nous sommes avec Laurence Oligny-Roy. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors Laurence, quand j'ai lu tout ce que tu fais, ça, j'ai dit oulala, on va avoir plein de choses à se raconter, c'est super. Alors d'abord, designer, fondatrice, copropriétaire de l'entreprise Nada Eco Atelier sur l'île d'Entrée. Alors on va commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, où est l'île d'Entrée et qu'est-ce que c'est?
L'île d'Entrée est située dans l'archipel des îles de la Madeleine. Puis pour s'y rendre, il faut d'abord se rendre aux îles de la Madeleine, puis ensuite prendre un traversier qui nous amène sur l'île d'Entrée. Donc c'est la seule île qui n'est pas attachée au reste de l'archipel.
Est-ce que tu connaissais déjà avant de t'y installer?
Je me suis installée avec mon conjoint Olivier Renaud. Puis lui m'en avait déjà parlé. Il me parlait, il y avait beaucoup d'intérêt. Donc, c'est la seule façon que j'en avais entendu parler. Autre ça, non, c'était...
Tu connaissais pas. Inconnu. Donc, parlons un petit peu de ce que tu fais, de ta confection, de ton rôle de designer. Ça a commencé comment, cette aventure?
L'aventure au niveau de la couture, ça a commencé assez jeune, quand j'avais 10 ans. J'ai toujours dessiné, dans le fond, toute ma vie. Puis, à 12 ans, j'ai commencé à coudre avec ma mère. Puis, j'ai suivi un cours en couture. Puis, suite à ça, à 15 ans, je me suis plus sensibilisée aux impacts sociaux et environnementaux de l'industrie de la mode. Puis à 15 ans, je me suis inscrite au Cégep Habitant Torin en design de mode. Puis j'avais l'intention de faire la mode autrement. Donc j'ai toujours, j'ai développé une technique propre à moi là, pour faire des vêtements à partir de matières récupérées. Donc là, ça fait environ 10 ans que je travaille sur cette technique-là particulière. Puis il y a 3 ans, en 2019, j'ai parti mon entreprise Nada Eco Atelier. Donc, tous mes produits sont confectionnés à la main avec des matières récupérées. Wow. Puis, c'est des zéro déchet également.
Ça, c'est merveilleux parce qu'en plus, ça évite que ce genre de vêtements soit enfoui quelque part pour détruire la planète aussi.
Oui, exactement, c'est ça. Il y a un très haut pourcentage de ce qu'on va donner à la friperie qui finit par soit être enfoui ou envoyé à l'étranger. Puis l'envoi à l'étranger n'est pas très éthique non plus.
Oui.
Ça crée des problèmes là-bas. Donc, le meilleur est vraiment de la récupération locale. Ouais.
De faire ce que tu fais. Alors, dans ce que tu fais des vêtements. Est-ce que tu fais aussi des sacs, d'autres choses?
Je fais des accessoires pour le yoga, la méditation. Donc, des coussins de méditation rembourrés avec des écailles de sarrasin, des sacs pour tapis de yoga. L'hiver, je fais des cache-coups, des mitaines, des tuques. Tout ce que, dans le fond, tout le monde a toujours besoin.
Ben oui, c'est...
Donc, ouais.
C'est une super idée. Où tu les trouves, tous tes tissus?
Ici, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est au Centre de matières résiduelles. Une fois par deux semaines, c'est organisé par la Coop La Machine, qui est une entreprise qui fait également dans la matière récupérée ici aux Îles-de-la-Madeleine. On va récupérer des tissus juste avant qu'ils soient envoyés à l'étranger, finalement sur la Grande Terre à Montréal.
Oui.
Puis ensuite de ça, au Cégep Marie-Victorin, on avait parti une coopérative pour recycler les retails de l'école de mode. Donc, moi, je vais m'approvisionner là encore aussi. Puis, je récupère chez les ménages, par exemple, des personnes âgées qui ont arrêté de coudre, qui ont des retails chez elles. Moi, je vais chercher ça parce que c'est le genre de truc que c'est pas toutes les friperies aussi qui prennent. Sinon, je vais récupérer des retails des fins de rouleaux de designers.
Des
retails de certains designers, je fais le ménage partout que le monde veulent plus de leur retail. Puis je trouve quelque chose à faire avec tout, là. Pratiquement tout. Ouais.
Quel talent! Bravo! Moi qui ne sais pas coudre un bouton, je t'admire. T'as droit à toute mon admiration.
On va faire un petit tutoriel en ligne.
Et bien justement, à part les acheter sur l'île d'Entrée, où est-ce qu'on peut les trouver, tes vêtements?
Là, présentement, je suis en train de travailler sur un site web en ligne. Donc,
d'accord.
Je voulais le partir cet automne, mais la connexion Internet sur les entrées, elle n'est pas super. Alors, je vais attendre un petit peu à, pour aller dans un endroit où la collection Internet est meilleure pour finir ça.
Oui.
Alors, ça va sortir au courant de l'automne ou l'hiver. Mais sinon, aux îles de la Madeleine, il y a la coop La Machine qui vend également mes produits. À Val-David, il y a une boutique qui s'appelle Maison Forêt dans les Laurentides qui vend mes produits aussi. Puis à Montréal, la boutique Loco Local qui est située dans le Myland vend également mes produits. Ouais.
Ben ça, c'est super. Donc, tu dois fournir en attente. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu vis sur l'île le printemps et l'été. Et l'hiver, tu vis à Val-David pour l'instant?
J'arrive au printemps, début printemps, puis je pars fin automne de l'île d'entrée. Donc, c'est quand même ma résidence principale où je passe le plus de temps. Mais j'ai aussi une résidence dans les Laurentides. C'est à Saint-Adolphe-d'Haworth, mais je suis souvent rendue à Val-David.
Alors, avant qu'on parle de ce qu'on fait d'autre sur l'île, ne quitte pas, on fait une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. On va entendre Ariane Roy qui nous chante « Je me réveille ». Alors, Laurence, encore tout plein de questions pour toi.
Oui.
Dis-moi, sur l'île d'entrée, est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent?
Quand même.
L'été?
Oui, l'été, l'hiver, non.
Oui, je me doute.
Oui, au fond, il y a Ivan Queen qui est un bateau de la SEQ qui fait l'aller-retour, il arrive le matin puis il part le soir. Il y a 45 personnes qui rentrent sur le bateau. Puis ensuite, il y a Excursion en mer, qui est une entreprise locale qui amène des touristes. Ils ont deux fois un bateau.
Je t'entends plus bien.
Ah, oh, pardon, allô?
Oui, je t'entendais plus bien. J'avais ta voix qui partait un peu, là. Vas-y, continue.
Oui, alors, c'est Excursion en mer, il y a des zodiacs aussi qui viennent trois fois par jour. Donc, on a comme des vagues. Les gens arrivent, prennent un café, ils viennent dans la boutique.
Mais avant qu'on parle du café et de tout ce qui s'y fait, est-ce qu'il y a moyen de rester dormir sur l'île, par exemple, quand on vient en vacances? Par exemple, je viens en vacances, je voudrais y passer 3 jours pleins ou 4 jours pleins. Comment je fais? Il y a une possibilité ou pas?
Non, pas pour l'instant.
Pas pour l'instant.
Il y a un homme qui loue une maison, mais elle est occupée, elle est louée pour la saison complète. Donc,
d'accord.
Il n'y a pas d'auberge, rien.
Alors, dans toi, ta boutique, il y a aussi un café.
Oui, c'est adjacent, c'est dans la même bâtisse. J'ai acheté la bâtisse au complet finalement, puis j'ai ouvert le café et la boutique. Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est le café? On y prend pas d'alcool, hein, est servi dans ce café. Mais par
non,
contre,
c'est sans alcool. On vend on a une bonne machine à café. Au fond, ce qu'on fait, c'est beaucoup de partenariat avec des entreprises locales. Donc, notre café, c'est vraiment une machine et le café de la brûlerie des îles. Notre thé, tisane, on a des matcha glacés, des chai. Tout ça, ça vient de Cœur d'Herboriste, qui est une entreprise ici aux îles de la Madeleine. Puis on a sinon des petites viennoiseries et puis tout ça. Puis on aimerait développer un petit peu plus aussi par rapport aux produits locaux, peut-être plus de choses à grignoter sans non plus faire compétition aux restaurants qui sont sur l'île,
oui.
Mais juste pour offrir quelque chose de complémentaire comme peut-être un jour des petites salades d'algues ou de légumes du jardin, des choses comme ça.
Ah, quelle excellente idée! Parce qu'en plus, dans ta boutique, non seulement il y a ce que tu crées, mais tu as mis aussi des produits de plusieurs artisans des îles environnantes.
Oui, effectivement, il y a une dizaine d'artisans locaux. On a même des artisans de l'île d'Entrée, puis ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai vu des gens de l'île d'Entrée, ça les a motivés à créer, puis à créer des produits vraiment originaux qu'ils vendent dans la boutique. Sinon, c'est tous des gens de mon entourage, des artistes des îles de la Madeleine que je connais, leur éthique de travail, je connais comment ils font les choses, donc je peux en parler, je sais de quoi je parle.
Oui.
Parce que j'ai vu leur atelier et tout ça. Puis sinon, j'ai des gens de ma famille aussi. Ma mère qui fait des pots avec des plantes qu'on fait pousser aussi sur l'île d'Entrée localement. Des toiles. Puis on a vraiment des choses un petit peu plus bas de gamme, comme une petite section friperie. Mais on a des choses aussi haut de gamme qu'on trouve difficilement ailleurs sur les îles. On a des produits exclusifs qu'on a seulement à la boutique. Donc,
d'accord.
C'est vraiment intéressant de venir jeter un coup d'œil. Il ne faut vraiment pas passer par devant sans venir voir.
Ça donne vraiment très envie d'y aller. Moi, je ne connais pas l'endroit, mais ça me donne vraiment très envie d'y aller. Surtout que toi, dans ce que tu travailles, ce sont des modèles uniques. Puisque
oui.
même si tu refais genre un deuxième pull ou autre chose, tu le fais de façon différente, couleurs différentes, formes différentes. Donc, c'est chaque fois quelque chose d'assez unique.
Exactement. Je vais faire un gros maximum de 5 morceaux pareils si j'ai vraiment les mêmes tissus. Mais tu sais, par exemple, il va y avoir X small à X large qui va être la même couleur, le même tissu, la même impression. Mais une fois qu'il y en a plus, il n'y en aura plus jamais. Donc c'est vraiment éphémère. Puis il faut justement quand t'as un coup de cœur, tu peux pas le retrouver par la suite. Là, ouais.
Alors maintenant, parlons à quelque chose que j'adore aussi, c'est la musique et les contes.
Oui, mon conjoint Olivier Renaud est violoniste. Donc, il a étudié là-dedans, il est compositeur également. Donc, on veut offrir une belle programmation musicale. Cette année, c'était vraiment à l'improviste, on affichait le matin un spectacle. Puis le soir, pas le soir, mais l'après-midi, ils venaient jouer, certaines fois accompagnés, certaines fois seuls. Puis là, cet hiver, on va prendre le temps de vraiment monter une programmation musicale pour l'année prochaine. Donc, effectivement, les contes, on aimerait faire une programmation avec Contes en Île, qui est un festival super intéressant ici aux Îles-de-la-Madeleine, puis faire des partenariats aussi avec les artistes locaux ou des artistes de notre entourage qui sont à l'extérieur des Îles-de-la-Madeleine, que ça fasse vraiment une expérience entière et vraiment intéressante.
Oui, parce qu'en plus de ça, il est musicien l'été et pêcheur.
Oui, c'est ça. Il pêche pendant le printemps. Vous l'avez peut-être vu à l'émission La Course folle à Télé-Québec. Il était un des quatre pêcheurs suivis par
D'accord.
l'émission. Puis c'est ça, cette année, c'était sa première année comme capitaine. Puis l'été, c'est ça, il se remet au violon. On a d'autres musiciens sur l'île que des fois, on fait des petits cabarets musicaux ensemble. Puis on a beaucoup de plaisir.
Alors, avec tous ces projets que vous avez tous ensemble, est-ce que vous avez un jour l'intention de vous installer définitivement, c'est-à-dire même d'y passer l'hiver?
C'est sûr que nous, ce qui est important pour nous, c'est que notre maison soit habitée à l'année. Donc, on laisse tout le temps l'hiver notre maison à des amis. Donc, nos voisins ont toujours des voisins, puis tout ça. Mais moi, personnellement, c'est vraiment parce que ma famille est dans les Laurentides, que ma soeur a un bébé, puis c'est important pour moi de passer du temps proche de ma famille. Sauf si eux, ils trouveraient une maison et ils viendraient ici. Je pense que je retournerais toujours passer du temps avec ma famille quelques mois par année.
Ouais. Oui, bien sûr, parce que vous êtes un peu aussi... Il y a moins de gens de votre âge que de gens plus âgés sur l'île.
Oui, la plupart des gens ont peut-être 45, 50 ans et plus. Mais il y a quelques jeunes quand même d'une vingtaine d'années qui sont sur l'île. Puis, durant la pêche, il y a beaucoup de jeunes de l'île du Prince-Édouard parce que les gens, après l'école primaire, ils vont à l'île du Prince-Édouard souvent pour finir leurs études. Puis après, ils s'installent là pour faire leur vie. Mais ils reviennent pendant la pêche. Donc, pendant la pêche, c'est vraiment vivant. Il y a plein de jeunes, puis des gens de notre âge. Puis je crois que ces gens-là vont continuer de venir parce qu'ils ont une maison, ils ont un travail ici. Donc, c'est vraiment intéressant pour eux. Puis c'est ça. Fait qu'il y a quand même la culture des jeunes de l'île d'Antrie qui est très présente pendant un certain moment de l'année. Ce qui est le fun. On aime bien ça.
Alors, une dernière question parce qu'on arrive vers la fin de l'entrevue. Est-ce que c'est facile? D'abord, est-ce que ça a été facile pour toi? Puis est-ce que c'est facile en général de trouver un logement sur l'île?
Non, c'est un défi très difficile, comme un peu les îles de la Madeleine ou un peu partout au Québec.
Oui.
Mais ça a été difficile de loger nos employés. C'est un défi qu'on continue de travailler dessus parce que nous, on a espoir qu'il y ait des jeunes comme nous, peut-être des familles qui s'installent sur l'île d'Antrie.
Oui.
Mais s'il n'y a pas de logement, ça ne se ferait pas.
C'est ça.
Comme on avait des amis qui étaient là, ils ont dû partir faute de logement. Donc, c'est inquiétant. Puis, c'est à se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ça, justement. Pour nous, l'île d'Antrie, c'est vraiment un endroit, une communauté qui est super... c'est riche en culture et aussi le paysage.
Oui.
On ne veut pas perdre ça. C'est la communauté, c'est vraiment important. Puis c'est une des premières raisons pourquoi on est là. Donc,
oui.
Avoir des maisons habitées le plus possible à l'année longue.
Sans défigurer le paysage, mais peut-être certaines constructions qui pourraient s'inclure complètement dans l'endroit aussi.
Oui, c'est ça. On pense peut-être... éventuellement construire des logements justement pour nos employés ou la famille. Ouais.
Ça serait bien. Écoute, vraiment, tu nous as fait envie, Laurence, de cet endroit.
Merci
beaucoup.
De vous recevoir.
Bonne continuation. En tout cas, grâce à toi, j'irai visiter l'île d'Antrée, ça c'est sûr. Alors, merci beaucoup et puis bonne continuation à toi et au tien dans tout ce que vous créez. Et bravo pour ça.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée à vous. Au revoir.
On aurait pu entrer à deux au milieu dans cette carte postale. On aurait pu imaginer un clair de lune, un ciel radieux sur fond de chaleur tropicale, sur un transat abandonné. J'ai la voix blanche comme le papier, celui que j'avais préparé, sur lequel il était écrit: comme tu vas me manquer, oui, tu vas me manquer, ce que tu vas. Sur le papier, et j'ai laissé la carte postale s'envoler et puis se noyer. Un clair de lune, un ciel pluvieux, j'ai vu rougir ton visage pâle quand cette phrase m'a échappé. Je t'ai tellement aimé, je t'ai tellement aimé, je t'ai tellement aimé. Au milieu dans cette carte postale, on aurait pu imaginer. J'ai vu le désert dans tes yeux, que tout ça t'était bien égal, sans faire de bruit. Comme la nuit, je suis tombée.
On vient d'entendre la grande Sophie qui nous chantait Missive. Je ne sais pas comment tu as réagi à l'entrevue avec Laurent Soligny-Roy, mais en tout cas, tu connais, toi, cette île, l'île d'Entrée?
Non, avant aujourd'hui, je ne la connaissais pas.
Écoute, j'ai trouvé ça fascinant parce que le plaisir qu'elle a à créer aujourd'hui, autre façon de vivre et autre façon de se lancer avec tout ce qui s'est passé. Et puis c'est beau cette aventure, non?
Ça me tente
d'aller voir. Et puis le simple fait de savoir de traverser en bateau, mais d'y passer la journée, j'avoue que j'y resterai bien quelques jours. Donc petite construction.
Tant qu'à traverser, traverse pour la peine.
Sympathique et pour y rester un petit peu quelques temps de façon à pouvoir vraiment créer des soirées festives dans les contes, dans la musique et dans tout ça. Ah, j'ai trouvé ça très, très beau.
Et là, on parle de ça, et les vacances se terminent, l'année scolaire qui redébute. Donc,
ah,
ça
oui.
Fait des plans pour les prochaines vacances,
voilà.
Peut-être.
T'en sais quelque chose, toi, tu vas pouvoir emmener tes petits.
on va attendre que la patience routière soit un peu plus élevée.
Voilà. Donc, merci à toi aussi d'avoir été avec nous et puis de nous avoir fait ta chronique toujours très intéressante. Merci à vous toutes et vous tous. Puis j'espère que, comme nous, vous avez envie de visiter l'île d'Entrée. Donc, on se dit à demain, et si vous le voulez bien, évidemment. Et puis, bonne soirée. Au revoir.